Autant qu'on puisse le savoir, après l'intervention de l'artillerie américaine à Souk el-Harb, il a été décidé entre Téhéran et Damas de porter un grand coup contre les Marines à Beyrouth. Le contingent français est aussi visé, mais les Syriens auraient demandé d'épargner le contingent italien. Tout ça parce que, selon une confidence du ministre de la Défense syrien Mustafa Tlass, il aurait demandé à la résistance libanaise de ne pas faire pleurer Gina Lollobrigida, pour qui il a une adoration depuis sa jeunesse. Ceci dans une confidence de Mustafa Tlass le 1er janvier 1998, et Gina Lollobrigida l'a remercié de cette intention. Donc, le 23 octobre, au petit matin, un camion piégé fait sauter le quartier général des Marines à Beyrouth, tandis qu'une opération du même genre frappe le cantonnement français. Le bilan est terrible. 241 Américains et 53 Français sont tués. Pour les deux pays, ce sont les pertes les plus lourdes, les uns depuis la guerre du Vietnam, l'autre depuis la guerre d'Algérie. Dès le lendemain, le président français François Mitterrand se rend en visite éclair à Beyrouth pour s'incliner devant les victimes. Là, vous voyez ce qui reste de l'immeuble de 8 étages occupé par l'armée française, c'est-à-dire rien, ce qui me donne la dimension de l'explosion. Les Américains enverront le 26 le vice-président Bush pour faire un geste équivalent. Les blessés américains sont évacués sur un hôpital américain en Allemagne, ce qui est la procédure habituelle pour l'armée américaine. Mais il y aura ensuite une polémique pour savoir si on n'aurait pas dû les diriger sur un hôpital militaire britannique à Chypre, voire en Israël. Pour apaiser les critiques, on mettra en place une coopération médicale entre les Américains au Liban et Israël. Les deux opérations suicides sont revendiquées par une organisation prête-nom, l'organisation du djihad islamique. L'enquête s'oriente directement sur Amal islamique sur la base d'une communication interceptée entre Téhéran et Damas le 26 septembre, dont on n'avait pas saisi alors l'importance. Il est vrai que les services de renseignement avaient reçu d'avril à octobre plus d'une centaine d'alertes à la voiture piégée. On blâme aussi les officiers sur le terrain pour ne pas avoir pris de précautions supplémentaires, ce qui provoque une forte amertume chez eux. Les Américains font aussi porter la responsabilité sur le cher Fadlallah, bien que ces derniers aient rejeté tout rôle organisationnel au sein du mouvement de résistance libanaise. Il est vrai qu'il a mené publiquement campagne contre l'accord du 17 mai et l'action de la force multinationale. Mais il a toujours exprimé des réserves sur la tactique des attentats suicides et il semblerait qu'on l'ait confondu avec un de ses beaux-frères portant le même nom qui lui a donné des fatwas autorisant les attentats suicides. En tout cas, l'information visant le cheikh Fadlallah qui vient de mourir il y a quelques semaines de mort naturelle semble venir des services de renseignement des forces libanaises. Les premières déclarations officielles vont bien évidemment dans le sens de la fermeté. Pour Reagan, les États-Unis ont des intérêts vitaux au Liban et ils défendent la paix du monde. Le débarquement américain à la Grenade le 25 octobre a offert une compensation psychologique aux Américains, mais il n'en reste pas moins que les commissions d'enquête souligne l'ambiguïté de la mission de la force multinationale et sa vulnérabilité sur le terrain. Weinberger et les chefs militaires sont plus que jamais partisans d'un retrait rapide et hostiles à toute représaille militaire qui constituerait un engagement supplémentaire dans les affaires libanaises. Oui, là, c'est le lieu de l'attentat après l'explosion. Le 3 novembre 1983, Reagan désigne le successeur de McFarlane comme représentant du président dans les affaires du Moyen-Orient. Il s'agit de l'ancien secrétaire à la défense de Gerald Ford, Donald Rumsfeld, qu'on retrouvera ultérieurement sous la seconde administration Bush. À la mi-novembre, Rumsfeld commence une tournée de prise de contact et en tire des conclusions négatives, allant jusqu'à faire la comparaison entre l'engagement américain au Vietnam et celui au Liban. Dans les deux cas, on s'interroge sur la capacité américaine de modifier la situation. Le gouvernement américain, le gouvernement libanais est trop faible et la Syrie n'abandonnera pas ses positions. Il faut chercher une solution honorable de sortie de l'affaire. Tel est le rapport Rumsfeld. Le Congrès national de Genève s'ouvre le 31 octobre. Les représentants des principales forces politiques libanaises sont présents. Radam, au nom de la Syrie, est convié à titre d'observateur, ainsi qu'un ministre saoudien. L'ambassadeur américain Fairbanks est dans les coulisses. L'Israélien David Kimche n'est pas très loin. L'ordre du jour porte sur la restauration de l'autorité de l'État et les modifications de la Constitution, ainsi que le sort de l'accord du 17 mai. L'atmosphère est tendue et les débats sont houleux. Hariri et Fairbanks multiplient les médiations. On peut se mettre d'accord sur l'identité et l'appartenance arabe du Liban, mais on ne progresse pas sur les autres sujets. C'est que le problème, c'est que les Américains veulent bien d'un accord national au Liban, mais avec l'accord du 17 mai, tandis que l'opposition veut d'une union nationale, mais sans l'accord du 17 mai. Donc, on charge Amin Gemayel de poursuivre ses démarches sur les plans internes et internationaux en vue de mettre fin à l'occupation israélienne et d'engager les négociations internationales nécessaires afin d'assurer la souveraineté totale et absolue du Liban sur tout son territoire et dans tous les domaines nationaux. Bel exemple de langue de bois diplomatique. Un attentat à la voiture piégée, de véhicule piégé contre le quartier général de l'armée israélienne fait 29 morts et 29 blessés le 4 novembre 1983. Attentat encore une fois revendiqué par le djihad islamique et les officiels américains peuvent se consoler à l'idée que les Israéliens ne sont pas plus efficaces qu'eux pour trouver des parades à ce type d'attentat. Immédiatement, l'aviation israélienne exerce des raids de représailles contre les installations de la dissidence palestinienne dans la Beka, puis Israël fait peser sur la Syrie la responsabilité de l'attentat. On multiplie les déclarations extrêmement violentes contre la Syrie. Pour Israël et les États-Unis, la Syrie est devenue l'ennemi, d'où une convergence de politique après la tension des derniers mois. Les Français sont décidés à un raid aérien de représailles sur une caserne abritant Hamal islamique à Baalbek. Reagan donne son accord à une action commune franco-américaine, mais Weinberger y est hostile. Pour le secrétaire à la défense, les représailles ne servent à rien, sinon à tuer des civils, ce qui augmente l'hostilité. On ne doit se servir de la force qu'à condition de l'utiliser massivement dans la perspective d'un gain concret. Weinberger sabote la participation américaine à l'insu du président qui ensuite ferme les yeux. De ce fait, les Français sont les seuls à bombarder la caserne de Balbec le 17 septembre, mais il est impossible de déterminer les résultats de cette opération parce que les Israéliens, 17 novembre, pardon, parce que les Israéliens ont frappé les mêmes objectifs la veille. Le bilan des deux raids est de 43 tués et de 112 blessés. Du coup, les Américains considèrent que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc là, vous avez les cercueils des victimes des deux raids aériens. À la fin novembre, la visite de Shamir à Washington consacre le réchauffement des relations israélo-américaines et l'intensification de la coopération politique et militaire. Un groupe de travail va examiner l'accord du 17 mai, mais sans chercher à l'annuler. C'est pourtant ce que demande Amin Gemayel quand il passe à son tour à Washington, le 1er décembre, dans le cadre de son mandat de la conférence de Genève. On se contente de former des groupes de travail pour étudier les options à venir. Depuis le mois de novembre, les avions de reconnaissance américains au-dessus du Liban sont soumis à des tirs de SAM-7 syriens. Ils n'ont pas de pertes. Un raid est lancé contre les positions syriennes le 4 décembre. Deux avions américains sont abattus, un pilote est tué et un autre fait prisonnier. C'est un noir américain qui sera libéré en janvier 1984 à la demande du leader noir progressiste américain Jesse Jackson. Ce qui avait été conçu comme une démonstration de force s'est transformé en exposition de la vulnérabilité en dépit de la destruction de plusieurs batteries. Les jours suivants, la force multinationale subit des bombardements intensifs provoquant la mort de 8 Marines. Clairement, les soldats occidentaux sont plus occupés à se protéger qu'à protéger la population ou le gouvernement libanais. Puisque les avions sont exposés au tir de la DCA, surtout si on vise la DCA, on a recours au New Jersey. Le souffle des énormes projectiles du cuirassé ébranle la ville de Beyrouth avant d'aller s'écraser sur les positions présumées de l'artillerie syrienne dans la montagne libanaise. Le hasard fait que les tirs de New Jersey précèdent de quelques heures l'arrivée de Rumsfeld à Damas. Les Syriens n'arrivent pas à croire qu'il s'agit là d'une pure coïncidence, ce qui semble être le cas. Pour les États-Unis, il est clair que la Syrie est devenue le joueur majeur dans la région, intervenant dans l'ensemble des dossiers, Liban, Palestine, guerre Irak-Iran ou première guerre du Golfe. Tout en s'opposant publiquement à la Syrie, on continue de discuter politiquement avec elle. On veut absolument éviter une guerre américano-syrienne. Le contexte moyen-oriental général est inquiétant. Le 12 décembre, 7 attentats à la voiture piégée frappent les intérêts américains à Koweït, dont l'ambassade faisant 5 morts et 61 blessés. L'action est revendiquée par le djihad islamique, comme à Beyrouth et à Tyr. La police koweïtienne démantèle le réseau terroriste et accuse le parti d'origine irakienne chiite, Al-Darwa, d'être responsable des attentats. Je rappelle que Darwa est l'une des matrices du Hezbollah. Seul élément positif, les chrétiens assiégés peuvent évacuer la ville de Deir el-Ahmar, 35 000 civils et 4 000 miliciens bénéficient d'un accord négocié avec l'appui des Américains et la protection israélienne. Le danger est de voir le Liban se diviser en cantons monoconfessionnel. Alors là, c'est un aspect, puisqu'il faut voir l'autre partie de l'écran maintenant et retourner à Tripoli. Arafat est décidé à un coup d'éclat afin de résoudre la crise provoquée par la dissidence. Il est pris au martyr pour montrer l'importance essentielle de conserver la liberté de décision palestinienne. Sans prévenir personne, Il quitte Tunis pour Chypre et de là se rend à Tripoli à la mi-septembre 1983. Courant le risque de voir le bâtiment qu'il transporte être intercepté par la marine israélienne. Il veut contraindre tous les intéressés à se prononcer clairement pour ou contre lui et en même temps utiliser tout son réseau de connexions internationales avec un sens aigu de la communication politique. C'est d'un camp palestinien de Tripoli qu'il commémore le premier anniversaire de Sabra et Shatila. Là, il est avec Abu Jihad à Tripoli. 600 combattants palestiniens réussissent à briser l'encerclement syrien dans la Mecca et rejoignent Arafat à Tripoli. Dans la ville, les Palestiniens s'appuient sur la milice islamiste, le mouvement de l'Union islamique, qui combat la milice Alaouite pro-syrienne et les autres organisations pro-syriennes qui sont progressivement chassées. D'où un drame supplémentaire dans l'histoire libanaise, puisque de facto, le Fatah va collaborer avec les islamistes sunnites pour liquider les communistes à Tripoli, puisque les communistes, qui étaient les alliés du Fatah, sont maintenant les alliés de la Syrie. La victoire de l'opposition libanaise dans la nouvelle guerre de la montagne encourage les dissidents palestiniens dans le choix de l'option syrienne, mais il est rapidement clair que les alliés libanais de la Syrie n'accepteront pas le retour des Palestiniens à Beyrouth. En Syrie, les Palestiniens sont forcés de rallier officiellement la dissidence. Ceux qui refusent, environ un millier de personnes, sont mis en prison. La bataille de Tripoli commence le 3 novembre 1983 quand les dissidents du Fatah, appuyés par l'armée syrienne, bombardent les camps de Nahr el-Bared et Badawi, faisant des dizaines de victimes. Les dissidents, certainement influencés par le contexte libanais, expliquent qu'il s'agit là aussi de forcer Arafat au dialogue. Nahr el-Bared tombe aux mains des dissidents le 6 novembre. Dans le débat public, les partisans d'Arafat accusent les dissidents, les Syriens et les Libyens, d'être les instruments d'un plan américano-israélien visant à liquider l'OLP et à créer une autre organisation palestinienne à leurs ordres. Selon Abu Iyad, le 3 novembre, ce que Sharon n'a pas réussi à Beyrouth, les Syriens et les Libyens sont en train de le faire. Les dissidents, eux, prétendent avoir pour eux la majorité des militants et la fidélité au programme politique du Fatah et de l'OLP. La gauche palestinienne appelle à la fin des combats sans prendre officiellement parti. Il est incontestable que la popularité d'Arafat reste grande chez les Palestiniens, en particulier dans les territoires occupés. Les principales notabilités proclament leur solidarité avec Arafat et condamnent la Syrie. Le programme de libération de la Palestine par la seule lutte armée paraît irréaliste aux habitants des territoires et seul Arafat a les moyens d'une solution politique. Les manifestations pro-arafatistes sont durement réprimées par l'armée israélienne. Shamir exhorte les Palestiniens à perdre confiance dans l'OLP, dont les dirigeants s'entretuent et dont les résultats sont catastrophiques. L'Arabie saoudite, l'Irak et l'Égypte apportent leur soutien à Arafat. Après quelques jours de combats ponctués de cessez-le-feu, les dissidents et l'armée syrienne se lancent à l'assaut du camp de Badawi, vidé de la plus grande partie de sa population, 15 novembre 1983. Arafat et ses hommes se sont repliés sur la ville de Tripoli, elle-même. À Nahr el-Bared, occupé par les dissidents, une manifestation populaire de soutien à Arafat est écrasée dans le sang, 25 morts, 75 blessés. La marine israélienne établit un blocus maritime de Tripoli, parachevant l'encerclement terrestre de l'armée syrienne. Donc on a, figure à la libanaise, un encerclement de l'OLP par l'armée syrienne et du côté naval par la marine israélienne. Selon la règle d'or de la politique moyenne-orientale, si on est en situation d'infériorité ou pire encore, la seule solution est d'arabiser ou d'internationaliser la crise. Tel était le but recherché par Arafat en allant à Tripoli, tandis que la souffrance des populations soumises au bombardement syrien émeut les opinions publiques. La direction du Fatah réussit une grande manœuvre diplomatique mélangeant l'arabisation et l'internationalisation. La France y joue un rôle majeur. Dès le début d'octobre, la liaison est permanente entre Paris et la direction palestinienne, la diplomatie française ayant aussi obtenu le soutien de l'Algérie et de la Tunisie. L'Union soviétique fait connaître sa neutralité, à condition que la Syrie ne soit pas mentionnée. Le 23 novembre, le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité la résolution 542 qui demande aux parties intéressées d'accepter immédiatement un cessez-le-feu et d'observer scrupuleusement l'arrêt des hostilités. Parallèlement, la France joue un rôle majeur dans un échange de prisonniers placés sous l'égide de la Croix-Rouge internationale. Contre 6 prisonniers israéliens, Israël libère 4683 Palestiniens et Libanais détenus pour la plupart dans le camp d'Al-Ansar et dans les centres de détention. Les Libanais sont relâchés au Liban Sud, tandis que les 3 avions d'Air France transfèrent 1117 prisonniers en Algérie. Les 6 Israéliens quittent Tripoli sur un navire de guerre français et ensuite sont récupérés par un bâtiment israélien. Ce grand succès redore le prestige de la France et d'Arafat. Les détenus libérés d'Al-Ansar évoquent de multiples mauvais traitements, des humiliations quotidiennes et l'usage de la torture, ainsi qu'un grand nombre de cas de disparition. On n'aura pas reconnu le statut de prisonnier de guerre, ni celui de civil en période de guerre, ce qui était la situation de la majorité des gens raflés par l'armée israélienne. Néanmoins, le CICR a pu exercer son droit de visite soumis aux aléas des autorités militaires israéliennes. En même temps, l'Arabie saoudite apporte sa médiation avec incitations financières positives et négatives. Elle obtient un accord avec la Syrie le 25 novembre, établissant un cessez-le-feu stable et permanent et le départ de tous les combattants palestiniens de Tripoli et de sa région. Bien entendu, c'est un cessez-le-feu à la libanaise, abondamment violé par toutes les parties. La situation est d'autant plus confuse que Hafez al-Assad est victime de graves problèmes de santé depuis le début du mois de décembre. On évoque une crise d'appendicite, ce qui serait la seconde en 20 ans et un cas unique dans l'histoire de la médecine. En tout cas, le président syrien se retire de la vie publique pendant plusieurs semaines. On reconnaîtra ultérieurement qu'il s'agissait d'un malaise cardiaque. Il reste à négocier l'évacuation de Tripoli par mer. Le 2 décembre, l'OLP demande à l'ONU de la garantir. Le 3 décembre, le secrétaire général répond favorablement. Les bâtiments seront sous le drapeau de l'ONU. C'est une décision strictement d'ordre humanitaire. Mais le 6 décembre, une bombe dans un autobus à Jérusalem fait 4 morts et 43 blessés parmi les passagers et les passants. L'attentat est revendiqué à la fois par l'OLP et les dissidents. Les jours suivants, des attentats anti-palestiniens ont lieu dans les territoires occupés. Une fillette palestinienne est tuée et des églises sont visées. Israël demande le châtiment de l'OLP et l'annulation de la protection de l'ONU. Le 9 décembre, le port de Tripoli est exposé successivement aux tirs de l'artillerie syrienne, puis ceux des navires de guerre israéliens. Dans ces conditions, l'opération est retardée. L'action française va se révéler déterminante. 5 navires civils grecs sous pavillon de l'ONU effectuent l'évacuation sous la protection de la marine de guerre française. Les États-Unis exercent de fortes pressions sur Israël pour qu'il laisse faire. En une seule journée, le 20 décembre, 4326 Palestiniens sont embarqués en quelques heures. Arafat en profite pour faire un geste spectaculaire. Le 22 décembre, il interrompt sa traversée à destination du Yémen du Sud, du Nord, non du Sud, pardon, en passant par le canal de Suez pour se rendre au Caire, où il est reçu par Hosni Moubarak, un nouvel axe politique anti-syrien prenant une solution politique et comprenant l'Égypte et l'ONP, avec élargissement possible à la Jordanie, et le patronage de l'Arabie saoudite se constitue. Les États-Unis voient un développement encourageant. Les réactions sont vives dans l'entourage même d'Arafat. Il en est de même dans le gouvernement israélien. L'objectif fondamental de la guerre du Liban, la destruction de l'ONP, est maintenant totalement irréalisable. Toute reprise du processus de paix doit intégrer la dimension palestinienne et évidemment l'ONP à un moment ou un autre. La contradiction de la politique américaine est de se tenir à l'accord du 17 mai tout en appelant une union nationale au Liban, ce qui est une contradiction dans les termes. De même, Reagan peut affirmer vertueusement que jamais on ne retirera sous la menace le contingent américain. En fait, l'opinion publique exige un retrait rapide et 1984 est une année électorale. Au Liban, Hariri, en tant que médiateur saoudien, cherche une formule d'entente nationale avec la reprise de la conférence de Genève. Si la libération du pilote américain détenu par les Syriens aborde un bref sentiment de détente, la violence demeure permanente. La population civile est victime des bombardements des différents côtés. Les contingents français et américains de la force multinationale continuent d'enregistrer des pertes. Les Israéliens lancent des raids aériens préventifs contre les positions syriennes et palestiniennes dans la Beka. Dans les régions occupées, ils sont quotidiennement harcelés et tirent à vue contre tous ceux qui pourraient paraître comme un danger potentiel. Le 14 janvier 1984, Sadr Haddad meurt de son cancer à l'âge de 47 ans. Shamir et un certain nombre de personnalités israéliennes assistent à ses funérailles et on cherche un nouveau partenaire pour tenir la frontière. L'armée du Liban Sud sera confiée au début d'avril 1984 à un lieutenant-général libanais à la retraite, Antoine Lahad, et portée à 3000 hommes, mais elle est incapable de faire face seule à la véritable insurrection chiite en cours. Elle l'exacerbe plutôt. La seconde école de pensée israélienne est d'abandonner la recherche illusoire d'un allié local et de se résoudre à une occupation directe de la zone frontalière. La troisième école de pensée, représentée par Shimon Peres dans l'opposition, est de solder tous les comptes et de revenir à la frontière internationale, quitte à reprendre la stratégie de représailles massives pour dissuader toute attaque contre le territoire israélien. La droite israélienne ne peut accepter cette solution car ce serait reconnaître que la guerre du Liban n'a été qu'une terrible erreur. Le 18 janvier 1984, Malcolm Kerr, président de l'Université américaine de Beyrouth, est assassiné à Beyrouth. C'était un grand orientaliste qui avait voué sa vie au rapprochement entre le monde occidental et l'islam. Le meurtre est revendiqué par le djihad islamique de la façon suivante. Nous avons assassiné, ça c'est Malcolm Kerr sur la photo, nous avons assassiné Malcolm Kerr qui est la victime de la présence américaine au Liban. Nous vous promettons qu'il ne restera plus aucun Américain ou Français sur cette terre. Nous ne cesserons pas ces méthodes et nous poursuivrons tous les agents libanais arabes, qu'ils soient des dirigeants, des hommes politiques ou des militaires. Nous répétons que nous sommes les plus forts et nous le resterons. L'émoi est considérable dans les milieux intellectuels et politiques. Précédemment, un autre responsable de l'université avait été enlevé, mais il avait été libéré suite à une médiation syrienne. Une nouvelle tournée de Rumsfeld au Proche-Orient montre le blocage de la situation. Damas continue d'exiger l'abrogation de l'accord du 17 mai, qui établit un protectorat israélien sur le Liban, tandis qu'Israël s'en tient au dit accord tout en laissant entendre qu'il pourrait procéder, pour des raisons de sécurité, à de nouveaux retraits unilatéraux dont les résultats pourraient être aussi catastrophiques du point de vue humain que le retrait du Chouf. En dehors du coût humain grandissant de l'occupation, on est maintenant à 560 tués et 3000 blessés dans l'armée israélienne. Les dépenses de la guerre contribuent à une inflation qui se rapproche de 200% en rythme annuel. Shamir a lancé une politique d'austérité qui pose de graves problèmes sociaux, mais il n'est pas question de remettre en cause les coûteux programmes de colonisation des territoires occupés. Reagan et Schultz multiplient les déclarations de fermeté, affirmant que retirer la force multinationale constituerait une victoire pour les États qui soutiennent le terrorisme, et que si on est expulsé du Liban, il serait plus difficile de poursuivre une politique de paix au Proche-Orient. Mais l'érosion de la politique américaine est inexorable. La plupart des responsables dans l'administration considèrent qu'il faut trouver une formule pas trop déshonorante permettant de quitter le Liban. Le consensus va dans le sens du départ. On est maintenant à discuter du comment. On cherche une porte de sortie en envisageant de transférer la mission de la force multinationale à la FINUL, mais il faudrait avoir l'accord de l'ONU, du Conseil de sécurité. Alors, il y aurait certainement veto soviétique. Au Congrès, l'opposition démocrate demande le retrait rapide des Marines. Le coup de grâce va venir de Beyrouth. À partir de la fin janvier 1984, Amal tente de repousser l'armée libanaise de la banlieue sud. Les marines stationnées à l'aéroport sont victimes de tirs collatéraux et ripostent. Les combats deviennent acharnés. L'armée pilonne la banlieue sud, causant des destructions considérables. Le 5 février, Amin Gemayel annonce un programme de réforme de 19 points et la non-ratification de l'accord du 17 mai. Le 6 février, les milices d'Amal prennent le contrôle de Beyrouth Ouest. On parle d'un soulèvement chiite, intifada. C'est à ce moment-là que le mot intifada, qui est dans la langue courante, revient dans la langue politique arabe. La capitale est de nouveau coupée en deux parties antagonistes. Les soldats chiites les soldats musulmans majoritairement chiites passent du côté de la rébellion, constituant une brigade autonome, la 6e brigade de l'armée libanaise, toujours en contact avec l'état-major, mais ne lui obéissant plus, par contre recevant la solde. Des menaces ont été exprimées contre les familles s'ils ne suivaient pas le mouvement. Les officiers supérieurs musulmans qui sont restés fidèles au gouvernement seront ultérieurement exfiltrés avec leurs familles, généralement vers la France. Progressivement, un modus vivendi à la libanaise s'établit. Contrairement aux événements de 1975-76, les nouvelles fractions ou factions de l'armée libanaise ne se combattent pas et l'unité administrative est maintenue. Et l'armée reste un symbole d'unité nationale. Le New Jersey fait une ultime démonstration de force contre l'artillerie druze afin de sanctionner le bombardement de l'ambassade américaine où se trouve Rumsfeld, mais les jeux sont faits. Tirant les conclusions de la situation et bénéficiant d'ingéniosité verbale de ses conseillers, Reagan annonce le redéploiement du contingent américain sur les navires de la 6e flotte. Immédiatement, les Italiens et le petit contingent britannique suivent. François Mitterrand marque la volonté de maintenir le contingent français, qu'on a maintenant surnommé la force mononationale, mais en même temps proclame la neutralité de la France dans la lutte des factions libanaises. Donc, c'est fini, en quelque sorte, du premier cycle engendré par l'invasion israélienne de juin 1900, 1982 et de la tentative de créer un pouvoir pro-occidental, en quelque sorte, au Liban, avec le retrait effectif de la force multinationale. À partir de début 1984, le dossier libanais restant évidemment toujours extrêmement important, nous le verrons, le dossier diplomatique va se transformer. On entre dans une phase que je pourrais appeler le refus israélien, un refus israélien qui était symétrique de l'ancien refus arabe de parler avec Israël. Donc, à partir de début 1984, le sujet est de savoir si les Israéliens peuvent parler ou non avec l'ONP. Donc, on aura une situation inverse de celle qu'on avait dans les décennies précédentes, où ce seront les diplomates arabes qui pousseront l'ouverture de négociations entre Palestiniens et Israéliens et un refus israélien de ces négociations. Donc on est dans une situation inversée, mais qui marque aussi combien maintenant, au moins dans la rhétorique des acteurs, le terme de paix est devenu l'objectif final, aussi bien du côté israélien que du côté arabe. Le consensus verbal, en tout cas, à partir du milieu des années 1980, est bien la paix. Toute la question est portant, évidemment, sur les modalités de cette paix. Puisqu'on est sur la base d'une position arabe qui est la paix contre les territoires, c'est-à-dire le retour aux lignes du 4 juin 67 et la création d'un État palestinien. Implicitement, l'offre de négociation arabe implique une reconnaissance de l'État d'Israël. Ensuite, on peut discuter, c'est le sujet de la négociation éventuelle, de savoir si on est dans une simple situation de non-belligérance jusqu'à une normalisation complète des rapports. Mais évidemment, du côté israélien, toute la question du sort des territoires, on veut bien la paix, mais on veut la paix plus les territoires. Donc, c'est bien l'enjeu des processus diplomatiques qui vont paraître, nous allons le voir aujourd'hui, enfin, la séance prochaine, et certainement encore l'année prochaine, assez vain, mais qui constitue en quelque sorte la pédagogie qui va conduire dans les années 1990 à la conférence de Madrid et aux accords d'Oslo. Mais n'anticipons pas et revenons à la situation libanaise après le redéploiement américain sur les navires de la 6e flotte. De facto, le retrait américain implique un véritable effondrement des positions de l'armée libanaise, puisque les forces druses du PSP entrent dans Beyrouth Ouest, faisant la jonction avec Amal, tandis que l'armée libanaise abandonne la position si importante précédemment de Souk El Harb. Les ambassades occidentales ferment toutes à Beyrouth Ouest, d'autant plus que la situation d'insécurité est telle qu'on a une première vague d'enlèvement de ressortissants occidentaux, américains, français et britanniques, à partir de janvier-février 1984. Le dossier des otages occidentaux au Liban est en train de s'ouvrir. Si les événements ont constitué un désastre pour la politique américaine, ils libèrent l'administration Reagan de la lourde hypothèque de la présence sur le terrain des forces américaines. Les Américains font porter la responsabilité de l'échec sur Amin Gemayel et sa faiblesse, ce qui permet aux Américains de se dédouaner de leur propre responsabilité. Mais inversement, du côté arabe, on en tire comme conclusion qu'une nouvelle fois, on ne peut pas faire confiance envers les Américains et qu'ils flanchent toujours au dernier moment. Une première médiation saoudienne menée par Rafik Hariri en liaison avec le prince Bandar propose l'abrogation de l'accord du 17 mai et le retrait de toutes les forces étrangères. Elle est évidemment rejetée par la Syrie et ses alliés. Si Walid Jumblatt et Nabih Berri demandent la démission d'Amin Gemayel, il est rapidement clair que Damas préfère traiter avec un président affaibli, mais qui peut encore parler au nom des chrétiens. L'autre élément est qu'il faut trouver un nouveau premier ministre sunnite, ce qui implique au préalable l'abrogation de l'accord du 17 mai. Alors il faut trouver la formule permettant l'abrogation, puisque Damas refuse toute relation entre un retrait syrien et un retrait israélien. Quant à Israël, il refuse de retirer ses troupes en cas d'abrogation de l'accord. Israël et les États-Unis s'accusent réciproquement d'être responsables de l'échec. Schultz attribue l'échec de la politique américaine au retrait israélien du Chouf. Les Israéliens parlent du manque de fermeté des Américains qui ont livré le Liban et la Syrie. En tout cas, le 29 février, puisqu'on est en année bissextile, Amin Gemayel est reçu chaleureusement à Damas, ce qui est le signal politique nécessaire. Et le 5 mars, le gouvernement Wazan est réanimé pour la circonstance afin de décider l'abrogation définitive de l'accord du 17 mai, considéré comme nul et non avenu. Les États-Unis regrettent la décision et demandent aux intéressés de trouver une nouvelle formule permettant de conduire au retrait israélien. Le 12 mars, la deuxième session de la conférence de réconciliation nationale libanaise s'ouvre à Lausanne, cette fois. On y échange des projets de transformation constitutionnelle, mais on ne va pas plus loin que la constitution d'un comité de sécurité et l'engagement d'ouvrir un dialogue. Ceci le 20 mars. Le 16 mars, William Buckley, qui est le chef de la CIA à Beyrouth, est enlevé. Assez vite, ses informateurs disparaissent ou sont assassinés. Pour Washington, il déclare qu'il a parlé sous la torture après l'attentat de l'année précédente. Pour la deuxième fois de suite, le service de renseignement américain au Proche-Orient, et en particulier au Liban, est démantelé. À la fin mars, la 6e flotte américaine reçoit l'ordre de reprendre ses opérations normales en Méditerranée, c'est-à-dire donc la fin de la fiction d'un redéploiement du contingent américain. En même temps, la France retire son contingent du Liban dans l'honneur. Enfin, on est parti les derniers, c'est déjà une consolation. Le désastre libanais a incité l'administration Reagan à désigner un nouvel ennemi, le terrorisme, terme qui va maintenant prendre une dimension de plus en plus importante à partir du milieu des années 1980. Les premières législations antiterroristes sont édictées à partir de cette période. Elles permettent, entre autres pour les États-Unis, d'édicter des sanctions économiques lourdes contre les pays ou institutions et entreprises soupçonnées de contribuer au terrorisme international. En avril 1984, un second voyage d'Amin Gemayel à Damas, puis formation d'un gouvernement Rachid Karame au Liban. Pour la première fois, les seigneurs de la guerre, les chefs de milice, y participent avec Walid Jumblatt et Nabi Berri, même si on leur accorde que des postes ministériels mineurs. Il faut plusieurs semaines de violences quotidiennes pour que ce gouvernement puisse arriver à une déclaration de politique générale, avec des jours terrifiants comme le lundi noir du 11 juin 1984, qui fait officiellement 81 morts et 221 blessés à Beyrouth. Le sort de l'armée est un enjeu essentiel. Il y a ceux qui veulent une armée définitivement divisée en unités confessionnelles, ce qu'on appelle une armée confédérale, et ceux qui veulent le maintien d'une armée unifiée avec répartition confessionnelle des postes de direction, comme dans le reste du Liban. En tout cas, les différentes parties s'accordent le 23 juin 1984 pour désigner un nouveau chef de l'armée à la place d'Ibrahim Tanous. Il s'agit de Michel Aoun, qui est le plus jeune officier à accéder au chef, au poste de commandement de l'armée libanaise à l'âge de 49 ans. C'est un partisan proclamé de l'unité de l'État et de l'armée, d'où le choix d'un homme connu pour être opposé à tout séparatisme. Dans la confusion meurtrière libanaise, il y a bien un élément de consensus, le refus du retour des Palestiniens armés à Beyrouth et dans le Liban Sud. Le PSP et surtout Amal rejettent avec véhémence toutes les déclarations dans ce sens. À Beyrouth-Ouest, le PSP et Amal s'opposent aux milices sunnites Mourabitoun, qui sont généralement les alliés des Palestiniens. Et en général, les Mourabitoun sont battus dans ces combats de milices à Beyrouth-Ouest. Dans la zone occupée, les forces clandestines de résistance à l'occupation affirment qu'il s'agit d'un combat purement libanais sans participation palestinienne organisée. À Reims, voit dans le refus des deux grandes milices la justification de sa politique de septembre 1983 et l'amorce d'un accord entre les factions libanaises et l'armée israélienne. Ce n'est qu'un médiocre réconfort. Le 17 février 1984, le cheikh Gharb, l'imam de Jibchit, symbole de la résistance, est assassiné par des collaborateurs d'Israël. Une grève générale touche l'ensemble du Liban à l'exception des régions contrôlées par les forces libanaises. Près de 100 000 personnes sont rassemblées à Jibchit, en pleine zone occupée, pour commémorer l'assassinat. Les forces d'occupation doivent maintenant se confronter à des mouvements populaires de protestation. C'est maintenant Amal qui encadre la protestation populaire. Les événements ont définitivement mis fin à la lutte armée palestinienne à partir du Liban, même si des Palestiniens participent à la résistance contre les forces d'occupation. Pourtant, à partir de Tunis, Arafat s'acharne à retrouver des positions au Liban. Mais en même temps, il explore la voie politique. L'alliance qu'il a forgée avec Moubarak facilite la réintégration de l'Égypte dans la conférence islamique le 19 janvier 1984, tandis que le dialogue reprend avec la Jordanie. Le roi Hussein poussé par les États-Unis, a accepté de reconvoquer le Parlement jordanien, qui comprend des représentants de la Cisjordanie et qui était suspendu depuis le sommet de Rabat de 1974. Un amendement constitutionnel permet au Parlement de désigner des remplaçants pour les sièges devenus vacants. Cette décision est reçue avec réserve en Cisjordanie, car en effet, le 18 janvier, ce sont des fidèles de la monarchie qui sont désignés pour représenter les Palestiniens au Parlement jordanien. Mais en même temps, le roi a indiqué qu'il s'en tenait à la coopération avec l'ONP, ce qui provoque la colère d'Israël, qui avait cru voir dans cette initiative l'annonce d'une volonté de négocier au nom des Palestiniens. La nouvelle situation créée par la visite d'Arafat au Caire permet un rapprochement entre la Jordanie et l'Égypte qui se concrétise par une visite commune de Moubarak et du roi Hussein au Caire le 13 février 1983. Autrement dit, la Jordanie reprend les relations politiques avec l'Égypte qui est théoriquement boycottée depuis le traité de Washington. En fait, la visite, elle a lieu aux États-Unis. Je me suis mal exprimé. Alors, dans la discussion, Moubarak surprend tout le monde en affirmant qu'aucune nation arabe ne peut négocier l'avenir des territoires au nom des Palestiniens sans la participation ou l'assentiment de l'ONP. Schultz lui reproche violemment de préférer la réintégration de l'Égypte dans le monde arabe au processus de paix. À la fin février, Arafat et Hussein se réunissent à Amman. Officiellement, Arafat refuse de participer au plan Reagan et s'en tient au plan de Fès, mais le dialogue politique est rouvert entre la Jordanie et l'ONP. L'erreur d'appréciation américaine habituelle est de croire que le roi Hussein serait prêt à accepter un règlement qui ne serait pas fondé sur les retours aux lignes du 4 juin 1967. Depuis son refus d'entrer dans le processus de Camp David, la Jordanie a vu une considérable réduction de l'aide américaine, en particulier dans le domaine militaire. Elle s'est alors tournée vers l'Union soviétique pour discuter de l'éventuelle livraison d'un système de défense antiaérienne. C'est évidemment un moyen de faire pression sur Washington. Le roi s'inquiète de la mollesse croissante de la position américaine dans la question des territoires occupés. Les colonies qu'on définissait jusque-là comme illégales ne sont plus que définies que comme des obstacles à la paix. Comme on est en période électorale aux États-Unis, il n'est pas question qu'on remette en cause ce dossier publiquement. Alors, la question de l'armement est aussi vitale pour la Jordanie, parce qu'il faut comprendre la restructuration en cours du dispositif américain au Moyen-Orient. Vous vous rappelez que le président Carter avait créé une force de déplacement rapide destinée à protéger les pays du Golfe. Avec la montée en puissance de cette force, en 1er janvier 1983, on a créé l'United States Central Command, ou CENTCOM, Central Command, pour succéder à la force d'action rapide. L'Égypte et la Jordanie sont des éléments essentiels du dispositif, dont Israël est écarté, parce qu'Israël dépend du commandement européen, ou EUCOM. Cela avait été une défaite pour ceux qui considéraient qu'Israël était un partenaire stratégique essentiel des États-Unis. Dans ce dossier, le département de la Défense s'était allié au département d'État contre le Conseil de sécurité nationale. Mais les partisans d'Israël avaient obtenu l'institutionnalisation d'un partenariat militaire spécifique entre les États-Unis et l'État hébreu. Je fais un arrêt là pour bien souligner l'importance de la création du Central Command en 1983. 1983 parce que c'est l'amorce de la restructuration de l'ensemble du dispositif mondial américain en commandement militaire. Et on va voir à partir du début des années 80 un glissement progressif de pouvoir régional vers les commandements militaires au détriment des ambassades, ce qui sera accéléré dans les années 1990. Puisque, à partir d'un certain moment, les gens comprennent sur le terrain que ceux qui ont des moyens, ce ne sont pas les ambassadeurs, mais les représentants des commandements militaires, en particulier au Moyen-Orient. Les chefs du CENTCOM sont beaucoup plus puissants que les représentants du département d'État, ce qui fait que les analystes aujourd'hui parlent d'un processus continu de militarisation de la politique étrangère américaine à partir des années 1980. Le CENTCOM, comme vous le savez, va connaître sa première heure de gloire avec la Seconde Guerre du Golfe 1990-91, et aujourd'hui, c'est le commandement qui gère à la fois les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Donc, c'est un épisode important. L'administration Reagan avait promis de vendre à la Jordanie 1613 missiles portatifs Solaire Stinger et 315 lance-missiles pour 133 millions de dollars, ainsi que 220 millions de dollars de matériel divers, le tout devant équiper une force mobile jordanienne intégrée dans le dispositif du CENTCOM. Mais l'AIPAC, le fer de lance du lobby pro-israélien aux États-Unis, s'est immédiatement mobilisé contre ce projet, et il est clair qu'en année électorale, il n'est pas question d'aller contre. L'affaire est d'autant plus compliquée que pour la monarchie hachémite, il n'est pas question de faire passer l'armée jordanienne comme un instrument de la politique américaine, même dans les pays du Golfe. De surcroît, les alliés d'Israël au Congrès proposent une motion au Sénat appelant à établir à Jérusalem l'ambassade des États-Unis en Israël, ce qui est une véritable provocation pour le roi et pour l'ensemble des pays arabes. Là, on entre dans un rituel de la politique américaine. Tous les ans, le Sénat fait une motion demandant l'établissement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et tous les ans, le président des États-Unis dit que ce n'est pas approprié. Et on recommence l'année suivante. Alors, le 15 mars 1984, le roi Hussein fait une déclaration incendiaire au New York Times. Je cite « La situation dans son ensemble est sans espoir, car il apparaît chaque jour plus clairement que les États-Unis ont abandonné leur position de superpuissance et de défenseur moral dans le monde. Ils ont abandonné leur position de nation qui tient sa parole et ses engagements. Ils ont choisi de se disqualifier comme seule force dans la région capable de nous aider à nous diriger vers une paix juste et durable. » Ils ne sont libres de leur mouvement que dans les limites déterminées par l'AIPAC, les sionistes et l'État d'Israël. Les États-Unis préfèrent l'aide à Israël à la paix, voilà le discours du roi Hussein. Et Assad, dont le tient un discours pratiquement identique. L'un comme l'autre propose comme nouvelle, pas comme nouvelle, comme recours politique, le retour à la formule d'une conférence internationale, comme en avait eu lieu en 1973 et comme on avait projeté d'en faire une en 1977. Donc je vais arrêter là parce que je pense que vous êtes suffisamment fatigués de tout ce déchaînement de violence et de diplomatie. La semaine prochaine, ce sera la dernière séance, hein, la double séance. Je vous remercie tous.